dans quelque chose que j'incorpore. Moi, j'aime. Alors, vous allez me dire, oui, j'aime. Et dès que c'est un... Il faut manger, non. Le judaïsme, c'est Aymeric Deutsch qui appelait ça. C'est ce qu'on appelle la liturgie de la table. La liturgie de la table, c'est parce qu'on mange et qu'on est capable de transcender le matériel. Il n'y a rien de plus matériel que la nourriture. Par une bénédiction, on la transcende dans nos jeux spirituels. C'est une façon de nous dire que nous, qui sommes matériels, si on accomplit notre vocation, on devient aussi un objet spirituel. L'huile, c'est matériel. Si vous en l'utilisez pour allumer des flammes, ça devient un objet spirituel. Le beignet, très matériel. Vous faites une bénédiction. Vous le mangez dans le cadre de la fête ou parfois vous vous forcez. Quand vous êtes à la cinquième célébration des bouches de Hanouka et qu'on vous dit, mais goûtez celui-là aussi, ce beignet aussi, qu'il faut manger le 15e beignet de la journée, croyez-moi, il faut vous forcer. Il n'empêche que ça devient un engagement à faire de ce que nous sommes, profondément matériel, nous les hommes et les femmes, quelque chose de spirituel, une aspiration spirituelle. Et toute cette fête, c'est ça. Comment la chose la plus matérielle, même la victoire militaire, elle a un but spirituel. Mais ça, vous ne pouvez pas le vivre seul, parce que si c'est spirituel, il faut le vivre en relation avec les autres âmes. Donc, Pirsuma Denisa, publication, publicité, visualisation du miracle, pour que tout le monde puisse bénéficier de cette façon que vous avez de voir les choses. Et d'ailleurs, c'est très joli, la Lachadi, on le mettra à la fenêtre, enfin, on le mettra à la porte. La porte. Au lieu de passage. Si on ne peut pas, on le monte à la fenêtre. Chez nous, à l'intérieur, mais à la fenêtre. Comme ça, on peut le voir de l'extérieur. Si on ne peut pas, si c'est dangereux, risqué, Manicho al Shulchanu Vedayu. On place la menorah sur notre table, à l'intérieur du foyer. Et Dayu, ça suffit. C'est-à-dire que, au moins, diffuse ça dans ton environnement le plus vicinal, dans ton environnement familial. Parce que si chacun le fait dans son environnement familial, finalement, une sorte de grande conjugaison de l'espérance. Mais il manquera toujours, à ce moment-là, notre obligation, oui, j'entends bien, j'utilise le mot obligation, de parler aussi à l'ensemble de la société. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on aille allumer une bougie à l'Élysée. Je trouve que ça n'a pas fait assez de choc l'an passé. Donc, on va en faire.
Faire plus officiellement encore.
C'était très officiel. Mais c'est d'ailleurs marrant, comme les mêmes qui se gaussent du bonheur de dire incroyable, le président des États-Unis allume la bougie de Hanouka à la Maison Blanche. Les mêmes se sont baudis de honte. Comment on a osé allumer une bougie de Hanouka à l'Élysée? En fait, qu'est-ce que la laïcité? C'est la liberté de pratique religieuse. Et les asmonéens se battent pour ça. Les asmonéens ont 2200 ans d'avance. Ils se battent pour la liberté de pratique religieuse. Ils ne veulent pas interdire le culte des idoles aux Grecs. Hein. Ils veulent juste que les Grecs ne les obligent pas à suivre leurs coutumes. Et donc ils disent, nous, notre tradition, c'est ça. Ben, on va vivre notre tradition. Et aujourd'hui, le combat pour le judaïsme, franchement, c'est le même. Moi, je ne veux pas que l'ensemble des examens s'arrêtent en France, Shabbat et jour de fête. Mais je veux que les étudiants juifs puissent respecter le Shabbat et le jour de fête, tout en avançant, progressant dans leur cursus universitaire. Et ça, il y a des membres dans l'administration qui comprennent parfaitement cet impératif de faire vivre une laïcité conforme à l'esprit de la loi, et d'autres qui n'ont jamais compris que le mot laïcité n'est pas de l'athéisme, et qui croient que la laïcité, c'est l'éradication de tout fait religieux. Ben ça, c'est un nom très précis, athéisme. Moi, je pense qu'il faut absolument faire vivre cette laïcité qui fait que bon, à l'Élysée, ça a apparemment fait bondir certains, mais il n'y a pas une grande ville en France, il n'y a pas un allumage des bougies, qui prend un accès universel. En fait, on allume les bougies dans une aspiration juive, évidemment c'est la fête de Hanouka, mais les maires, les conseils départementaux, les conseils généraux, les députés, les sénateurs, tels et ceux qui sont invités, les préfets, ceux qui sont invités à ces manifestations, le vivre comme un signe d'espérance. On rallume la flamme de quelque chose dans le cœur de chacun et de chacune de ceux qui participent. Franchement, c'est un miracle de société. Il faut savoir le vivre.
D'ailleurs, dans tous ces allumages que l'on voit un petit peu partout sur le territoire, eh bien, les discours qui sont tenus, j'en ai entendu quelques-uns. Ces discours, c'est toujours celui de la liberté de penser, la liberté de conscience, c'est un peu cela qu'on célèbre.
Oui, oui. Les Asmonéens se battent pour ça, pour avoir leur liberté de pratique. Et ils sont même prêts à prier pour l'empereur, prier pour qui on veut. Mais, selon les rites juifs, jamais chercher à nous imposer une façon de servir notre Dieu qui ne serait pas conforme à notre halakha, à nos règles. Et les Asmonéens nous donnent une grande leçon de courage, parce que d'ici on perd notre identité, qu'est-ce que nous sommes, à quoi ça sert, donc autant combattre. Et c'est ce combat-là, pour défendre ce que nous sommes, qui nous anime toujours, de ce point de vue d'ailleurs, c'est étrange, parce que de ce point de vue, et pour les générations, est valable. Sauf que c'est la méthode, le combat. Le combat y compris physique, la guerre. C'est pas ça, la méthode juive. C'est une méthode plus, je dirais, plus dans une méthode d'influence, d'explication, convaincre, mais pas par la force. L'obéchaïl v'l'obéchoir, ni avec le nombre, ni avec la force.
Et donc, Hanouka va revenir maintenant, et nous le vivons comme il convient, c'est-à-dire que nous allons tous nous regrouper, nous allons allumer la menorah dans nos maisons, à l'extérieur, elle va être vue de tous. Quel message doit-on dire quand on allume le premier soir, le second soir, ou à quelques moments qu'on commence?
Alors, je trouve que c'est une fête, il se trouve que c'est comme ça. On pourrait voir autrement, parce qu'il y a des familles, il n'y a pas d'enfants. Mais quand il y a des familles, il y a des enfants, je crois qu'il faut voir le regard émerveillé des enfants. Certes, on a remis des cadeaux qui n'étaient pas forcément le cadre habituel religieux, Hanouka, même si dans le monde ashkenaz, il y a la tradition du Hanouka Geld. On donnait de l'argent à Hanouka, comme si on permettait aux enfants de s'émanciper, de... Allez, vas-y, utilise, sois comme un grand, utilise ton argent, va t'acheter ce que tu veux. On a mis des cadeaux, c'est pas grave, c'est très bien. Et puis, ça donne cette notion de rendez-vous. On ne prend pas les cadeaux avant d'avoir allumé les bougies, avant d'avoir récité le psaume, avoir récité les prières, avoir chanté, avoir mangé les beignets. Bref, il y a un rituel. Et il faut, je crois, dans une société très sécularisée, revenir au rituel. On n'est pas juste des consommateurs de cadeaux, parce que sinon, vous les donnez quand vous voulez, on n'en parle plus. On attend ce moment, on vit quelque chose de religieux, et ensuite, on a la joie de la découverte des cadeaux. Et moi, j'ai toujours aimé que les enfants participent, parce qu'ils conçoivent très vite les choses. Au fond, je n'ai pas le droit d'avoir les cadeaux si je ne m'acquitte pas de ma part. Et quelle est ma part ? Me rappeler le miracle, chanter ma haute-sour. Ma haute-sour, formidable. Jouer à la toupie. Enfin, faire tout ce qui est rituel et moins rituel, mais qui fait partie de la fête. Et après, il y a la joie. La joie de la découverte des cadeaux, l'attente. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire que ça n'a pas un rapport avec ce qui se passe à l'extérieur dans la société, au moment des fêtes de Noël, où il y a les cadeaux. Cadeaux de Noël. Ok. Enfin, du moment que ça plaît aux enfants, et ben, c'est très bien, ça ne me gêne pas. Mais il y a aussi ce côté universel. Faut une société, ce sera toujours une société meilleure, si on arrive à redonner de la confiance, de l'espoir, de la joie aux enfants. Rappelez-vous ce qu'on dit à Kippour. Kippour, pas si loin que ça. On est coincé. On n'arrive plus à dire à Dieu quoi que ce soit, parce qu'on a à dire, parce qu'on n'a pas fait ce qu'on avait promis, parce qu'on, bon. Et on dit à Dieu, mon Dieu, pardonne-nous, pas pour nous, sur les enfants, chez Bed Rabban, chez Lochatou. Les enfants qui étudient et puis qui n'ont pas fauté, qui veulent juste être heureux, joyeux, qui ont confiance dans la vie. Ben, redonner des sourires aux enfants, c'est, je crois, un impératif formidable pour une société. Et on a la chance de le vivre au Mantranouka. Vivons-le pleinement pour nos enfants et pour tous les enfants extérieurs. Quand j'étais rabbin de Reims, d'ailleurs, il y avait un truc marrant. Il y avait un club service, le Kiwanis, qui ramassait des jouets pour Noël. Je suis allé voir, je leur dis, vous êtes au courant qu'il y a Hanouka chez nous? Ah ouais? Ah ouais? Eh ben, je dis, ce serait bien que vous ayez des cadeaux, et pour les uns, pour les autres, pour tout le monde, d'accord? Et donc, en fait, ils ont raté des cadeaux qui étaient remis pour toutes les familles, tout le monde. Et j'ai trouvé que ce côté universel de l'espérance des enfants était assez formidable. D'ailleurs, c'était marrant parce que, quand j'étais à Reims, justement, un des jeunes qui est maintenant grand, mais qui est tout petit, pas 7 ans. Après les vacances, le maître dit, bah, racontez vos vacances. Donc chacun raconte ses vacances, les fêtes de Noël, ce qu'il a comme cadeau. Et le petit Tristan, il s'appelait, fait son devoir. Alors moi, je suis juif. Je fais Hanouka, je fais pas Noël. Ça dure 8 jours. Et tous les jours, on a des cadeaux. Bah, la moitié de la classe, ça veut se convertir. Donc, il a fallu expliquer. C'est marrant parce que, pour les enfants, si dans un culte, on s'occupe d'eux, on leur donne, alors c'est quelque chose qui est important. Ça m'avait touché, ça m'avait amusé, évidemment. Ça m'avait touché de voir à quel point le fait de rendre un sourire à un enfant, y compris par un cadeau, donc quelque chose de très matériel, c'est pratiquement devenu quelque chose de religieux.
Bien, merci pour ces réflexions, monsieur le grand rabbin, mais vous restez avec nous, nous allons nous interrompre quelques instants et nous vous retrouvons ensuite pour la suite de nos réflexions sur Hanouka.
Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8
et sur radioj.fr.
Bonjour à tous, nous, pour tous ceux qui nous rejoignent en cours de route, nous sommes avec Chaim Korsia, le grand rabbin de France, et nous entretenons, nous réfléchissons ensemble aux implications de Hanouka, cette fête particulièrement grande, particulièrement belle, dont le grand rabbin vient de nous rappeler toute l'importance, l'union, le message général, et puis la présence des enfants, bien sûr. Je propose à votre réflexion, monsieur le grand rabbin, si vous voulez bien, une halakha, un extrait de la loi juive, dont nous trouvons l'origine dans le Talmud, qui nous dit que, qui s'interroge sur l'heure de l'allumage et jusqu'à quelle heure on peut allumer. Autrement dit, on sait qu'on doit allumer les flammes de Hanouka chaque soir, on doit les allumer, bougies ou autres, à partir du moment où il fait nuit. Mais si on ne l'a pas fait, on peut les allumer un petit peu plus tard, bien sûr. Alors le Talmud nous donne un point de repère, qui peut sembler un petit peu anachronique. Il nous dit « Ad kalir raglé des tarmoudoy » jusqu'à ce que les pieds, je traduis littéralement, les pieds des tarmoudéens aient disparu. Alors les tarmoudéens, on s'en souvient, mais ça nous renvoie à une histoire antique. Ce sont ces gens qui venaient de Talmud et qui étaient les derniers à dormir, puisque c'était ceux qui débarrassaient tous les détritus sur le marché après la clôture. Donc c'était vraiment les tout derniers. Autrement dit, lumière de Hanouka, on peut les allumer jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un dans la rue pour dire les choses rapidement.
Qui la voit, qui puisse la voir.
Exactement. Mais nous avons des interprétations intéressantes.
Oui.
Talmud, nous dit-on, mais je veux vous laisser la parole. Non, Talmud, nous dit-on, ce sont les lettres de Moredet, la révolte, jusqu'à ce qu'on éteigne la révolte contre le spirituel. Alors comment accueillir cela aujourd'hui?
Il y a une autre opposition à cette interprétation qui est très intéressante. C'est qu'un rabbin dit finalement, dans le Talmud, après tout, nous sommes là. Donc au moins pour soi, même si on n'est plus dans le pire souma des Nissa, c'est-à-dire un miracle, diffusé, au moins pour soi, c'est important de les allumer. Donc, si nous sommes là pour allumer, on est là pour voir les bougies, parce que vous savez bien qu'on n'a pas le droit d'user des bougies, c'est quelque chose de très important. On n'a pas le droit d'utiliser de la lumière dans Hanouka pour éclairer. Il faut qu'il y ait forcément une autre lumière. Ces lumières, on le dit dans le rituel, n'ont pas vocation à être utilisées, elles n'ont vocation qu'à être vues. Réveiller quelque chose en nous. En fait, leur but c'est ça. Donc, son rabbin dit, après tout, qui est ou qui pas, qu'est-ce que ça fait? Mais on voit bien que ce qu'on disait tout à l'heure est parfaitement légitime. L'enjeu, c'est de lutter contre ceux qui voudraient nous empêcher juste d'allumer des bougies. Donc, tant qu'il y a cette révolte contre le fait qu'on puisse allumer ou pas des bougies, je dois allumer des bougies. C'est à un moment où il n'y a plus de révolte, au moment où je peux faire ce que je veux. Bon, ben, il n'y a plus d'enjeu à se battre pour faire ce qu'on veut, puisqu'on peut faire ce qu'on veut. C'est toujours le paradoxe. C'est parce que je ne peux pas faire ce que je veux que je dois faire ce que je veux, pour manifester que je peux faire ce que je veux. Mais moi, je vais plus loin. Je pense que le principe même, c'est qu'il n'y aura jamais un moment sans révolte. On le dit d'ailleurs à Pâques. On dit « Bechol dor vador », on me dit « Malenu l'oraloténu », à chaque génération, quelqu'un se dresse contre nous. Comment il se dresse ? les uns en interdisant le Shabbat, les autres la cacheroute, les autres la circoncision, les autres l'étude de la Torah. C'est un invariant, ça, l'étude de la Torah. Parce que si on interdit l'étude de la Torah aux Juifs, il n'y a plus de Juifs. Et donc, il y aura toujours une révolte, oui, contre la liberté d'expression. Regardez en France, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a eu l'édit de Nantes? Il fait bagarrer pour ça. Révocation de l'édit de Nantes. Ça a été chaud. Il y a eu 30 000 morts. Vous n'avez jamais oublié que la Saint-Barthélemy, ça a été quand même quelque chose de très violent, qui a été réglé justement par l'édit de Nantes. Mais n'oublions pas, Saint-Barthélemy, où on a mis une plaque à Paris, à la mémoire des morts de la Saint-Barthélemy, 444 ans après. C'est vous dire qu'il nous a fallu du temps pour intégrer l'idée qu'on avait quand même manqué à notre devoir de liberté de pratique religieuse, qui est pour moi consubstantielle. Non pas la loi de laïcité 1905, consubstantielle à ce qu'est la France. Le génie français, pour moi, qui est un invariant de l'histoire, il est laïque. On peut monter, descendre, ça ne nous plaît pas, ça nous plaît. Il est dans la liberté de pratique religieuse. Et j'y vois une source marrante. C'est qu'en 496, quand Clovis se fait baptiser, uniquement pour amalgamer toutes les tribus, il a un royaume qui est fait de briques et de brocs, et plutôt d'allemands que de français, donc il faut amalgamer tout ça, et donc il le fait avec la foi chrétienne, mais ça l'embête de se faire baptiser par le pape. Parce que le pape, il a un pouvoir temporel très puissant. Et c'est son évêque, l'évêque de Reims, donc ça va, c'est bien, parce que j'étais rabbin de Reims, ça me va. L'évêque de Reims, Rémy, qui lui donne la solution, il dit, mais dans la nuit, l'Esprit Saint est venu et m'a amené le Saint-Crème, ce qui va servir d'onction. Et comme dans le top 50 catholique, chrétien, si vous voulez, le Saint-Crème est au-dessus, le Saint-Esprit est au-dessus du pape, bah, puisqu'on a le Saint-Esprit qui nous a amené le Saint-Crème, on n'a pas besoin du pape, il n'invite pas le pape. Donc, en fait, il utilise la transcendance religieuse sans passer sous les fourches codines du pouvoir temporel religieux. Voilà comment est Clovis. Pour moi, ça ressemble au principe édicté par la laïcité. Donc, notre ethos de français, c'est on respecte ça. Mais on voit bien qu'il y a des combats permanents pour défendre ça. Dans le judaïsme, c'est la même chose. Il y aura toujours une révolte contre la possibilité pour les juifs de vivre. Et regardez quelque chose que je voulais débattre avec vous, que vous percevrez la finesse. Quelle grande différence il y a entre Hanouka et Pourim? C'est en dehors d'Israël. C'est en Perse, dans les 127 provinces du royaume d'Assuérus. Hanouka, c'est la libération du temple. On est en plein Jérusalem, c'est Israël. Celle de l'extérieur, Pourim, elle est dans les textes. On a le texte de la Megillah qu'on a l'obligation de lire. Celle qui est en Israël, il n'y a pas le texte. Le livre des Maccabées 1 et Maccabées 2 n'est pas dans notre canon biblique. Il y a des différences sur le Hallel. On le sait, entre une fête qui est en Terre Sainte et une fête qui n'est pas en Terre Sainte. Donc en fait, il y a des différences et en réalité une complémentarité. L'un, c'était une agression contre la spiritualité d'Israël, Hanouka, mais les Grecs n'en voulaient pas au physique, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas tuer les Juifs. Pourim, Aman veut tuer tous les Juifs. Tous. Hommes, femmes, enfants. Donc, on voit d'une manière ou d'une autre d'où que vient l'attaque, où qu'elle se trouve, il y a toujours cette volonté d'annihiler quelque chose du peuple juif. Soit en éliminant les juifs, comme à Pourim, soit en éliminant leur foi, soit en les coupant de leur terre, soit en les coupant de leurs racines spirituelles. De toute manière, on ne peut pas laisser des gens qui ont l'outrecuidance de dire que le matériel peut devenir du spirituel, venir perturber l'ordonnancement du monde qui dit non. Et cette révolte contre cette obsession des Juifs, de garder leur tradition, de garder ce lien entre le matériel et le spirituel, cette révolte, elle sera permanente.
Et donc, nous avons toujours la charge de la repousser. C'est véritablement un don de soi, égal à celui des Asmonéens que vous décrivez ici.
Oui, mais c'est pour ça que moi, je pense que cette fête n'est pas uniquement une fête qui commémore, qui nous dit, il y a 2224 ans, ça s'est passé comme ça. C'est une fête qui nous dit, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais toi pour diffuser la Torah? Qu'est-ce que tu fais d'abord pour la vivre? Comment tu intègres les objets du miracle que Dieu te donne? Tout ce que tu manges, tout ce que tu bois, tout ce que tu vis, tout ce que tu reçois. Comment tu l'intègres pour te faire devenir toi-même un objet de miracle? Un outil de Dieu pour affermir la foi dans ton cœur, dans le cœur des autres, celles et ceux qui sont autour de toi? Comment ta vie devient un modèle, un exemple? Qu'est-ce que tu fais? Et je pense que si on est capable d'entendre cette voix qui nous dit « qu'est-ce que tu fais toi ?», alors on a vraiment vécu la vie. Bon, si en plus vous avez les beignets, les jouets, les cadeaux, c'est parfait. Mais le principe, c'est ça.
Il y a un autre aspect de Hanouka.
Vous avez remarqué, c'est vrai, un truc. On donne les cadeaux aux enfants tous les jours, nous les adultes, si on a un cadeau, c'est bien.
En effet.
Ouais. On aimerait bien revenir enfant. Voilà.
Justement, on va encore parler un petit peu d'eux, vous en avez déjà parlé, mais... On ne peut pas oublier, bien sûr, que Hanouka, c'est aussi chinouch.
Ouais. Très vrai.
Éducation, donc.
C'est-à-dire que pour lutter contre la, disons avec des mots contemporains, la déjudaïsation, soit vous luttez comme les asmonéens, c'est-à-dire que vous battez pour enlever les idoles du temple, pour maintenir le culte, pour allumer les flammes du candélabre, voilà. Soit vous apprenez à plein de jeunes à vivre tout ça. Et donc vous augmentez la masse de celles et ceux qui peuvent porter cette Torah. Donc en fait, il y a toujours une position défensive, mais le plus intelligent, c'est d'avoir une position offensive, c'est-à-dire qui va anticiper et qui va former, apprendre, donner aux jeunes cette responsabilité, partager cette responsabilité avec les jeunes. J'ai jamais vraiment réussi à savoir où était ma position sur quelque chose qui me semble très important pourtant. Ce sont les offices pour jeunes. Mais quand on fait des offices pour jeunes, c'est formidable. Quel est le but ? Que ça aille plus vite, bah franchement, je vois bien avec mes enfants, moi quand je pars à des horaires quand je pars très tôt à l'office, les jeunes ils aimeraient bien partir, enfin démarrer un office à 10h, 10h30, bien. Mais enfin si vous démarrez un office à 10h30 et que vous faites tous les psaumes et tous les trucs et tous les machins à 2 à l'heure, et que vous finissez à 3h30, c'est pas le fun. Donc c'est pas le fun pour la famille surtout. Bon. Et puis il y a un autre problème d'ailleurs de... avec ces offices qui durent tard, c'est notamment pas tant l'office d'ailleurs que le kiddush après, où les gens parfois ne savent pas se conduire. Vraiment. Y compris en termes de consommation d'alcool. Et ça donne des histoires parfois étonnantes dans les communautés. Et ça donne des retours à la maison, d'abord tardifs, avec l'incapacité de tenir un repas. Et j'étais alerté sur... C'est étrange parce que plusieurs synagogues me disaient « Mais comment faire ?» Je leur ai dit « Mais interdisez l'alcool !»« Ah, pas possible !» Bien sûr que c'est possible. Et donc... J'aime bien l'idée de dire il faut un office des jeunes. Mais en même temps, il manque ce moment où les parents bénissent les enfants, où il y a cette transmission des chants et des traditions synagogales d'une génération à l'autre. Pourquoi ? D'où vous savez-vous les psaumes et je sais pas moi. D'où moi je sais le commentaire homilétique des 10 commandements par Sadia Gaon qui a un Rosh Hashanah à Shavuot. D'où je sais ça? Personne ne s'est assis. Je vais t'apprendre le commentaire homilétique Sadia Gaon. J'étais à la synagogue quand j'étais petit et c'est vrai que c'était long, c'était même un peu gavant, mais je reste avec inscrit dans ma tête le 4e commandement apparaissait en lettres flamboyantes dans les hauteurs célestes alors que la voix de l'Éternel exhortait le peuple et l'environnait en ces termes. Ô enfants d'Israël, respecte le Shabbat, aime le Shabbat. Voilà. Je reste avec ce que j'ai entendu. Si on aime un chant, à un moment, il y a des chants qui nous touchent, plus que d'autres. Je vais pas vous chanter, le début de Shabbat, l'entrée de Shabbat, quelque chose, vous voyez, qui vous lève. Bien sûr que je comprends qu'il va y aller vite. Il faut aussi garantir cette transmission. Et je pense que, oui, la transmission, c'est le cœur de ce qu'est Hanouka. Mais pas que pendant 8 jours. Les beignets, vous les mangez 8 jours. Les bougies, vous les allumez 8 jours. Mais Hanouka doit nous réveiller sur notre impératif ardent à transmettre et à construire des outils de transmission. Y compris en étant capable, dans les offices, par exemple, je prends cet exemple, parce que je suis venu là-dessus et puis qu'on m'a alerté récemment sur ces questions. C'est formidable d'avoir des offices qui vont plus vite pour les jeunes, comme ça c'est plus fun pour eux. J'entends, je le comprends. Mais à un moment, il faut pouvoir garantir aussi cette transmission et donc qu'il y ait des points de rencontre. On peut imaginer, par exemple, que les jeunes foncent, démarrent plus tard, foncent, se tapent pas la vente des mises-votes qui est insupportable, se tapent pas les 25 moussifimes qu'il faut pour faire entrer l'argent. Et après, la paracha, on se retrouve tous pour commentaire du rabbin, les bénédictions d'usage et Moussa. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Mais c'est un impératif à la réflexion sur la transmission, vous avez raison. Parce que c'est le nom de la fête.
Alors, qu'aujourd'hui, Hanouka arrive, que...
Vous avez remarqué, pardon, vous avez remarqué que je vous ai récité le commentaire homélitique de Sédagone en français. Il était récité et en arabe, au Kalmat, et en arabe et en français. Enfin, qu'est-ce qu'un Chaim Nissenbaum peut connaître au Kalmat en arabe?
Non, honnêtement, je ne prétendrai pas à connaître. Ah, voilà. Mais je regrette de ne pas l'avoir entendu en vous en entendant parler. Ah,
c'est tellement merveilleux. Marrant.
Alors maintenant que c'est très concrètement Hanouka en vérité et que nous le célébrons, alors pour les quelques minutes qui nous restent, que proposez-vous, que suggérez-vous à nos auditeurs pour justement assurer cette transmission et faire que, on va le dire, que l'année prochaine Hanouka soit encore plus lumineux pour tout le monde?
C'est une très bonne suggestion en fait. Moi je pense que chaque année on doit être capable d'ajouter quelque chose, non pas une bougie de plus, allez, 9 bougies, et non pas 2 bénis de plus cette année, non. Sur le domaine du chinour que vous avez soulevé à très juste titre, parce que chinour, entendez-le, chinour, Hanouka, c'est la même racine. Par exemple, de décider que on va étudier, je ne sais pas moi, une Mishnah, une Mishnah par semaine, avec ses enfants. Ceux qui savent, c'est formidable, ceux qui ne savent pas, faisons l'effort ensemble de prendre ne serait-ce que les maximes des pères. Oui, c'est un traité de Mishnah plutôt simple, compréhensif, simple, accessible dans ce traité d'éthique qui est formidable.
Et d'excellentes traductions existent aujourd'hui.
Formidable. Et permettez-moi de distinguer surtout celle que j'ai toujours profondément aimée, celle de Annie-Claude Guggenheim, qui est la maman de l'actuel grand rabbin de Paris, et qui a fait une traduction merveilleuse avec des commentaires. Donc on peut... Voilà, je prends l'exemple des Maxime Desperts. Mais vous voyez, c'est un temps. Se garder un temps d'études avec ses enfants. Imaginez. Toute la famille se réunit, on n'est plus dans la course permanente. On se bloque un truc. Ça peut être après le repas du vendredi soir. Ça peut être avant le repas du vendredi soir. Je sais pas. Mais un moment. Et on étudie un truc. Ou même au milieu du repas, on fait un commentaire. Voilà. Façon de transmettre. Alors le commentaire, vous allez dire, comment je fais? Je connais pas le commentaire. Bah, prends un livre. Il y a une édition là qui vient de sortir. De Chumash, magnifique, avec des commentaires, d'ailleurs, ça vous plaira, du Rabbi de Lubavitch. Je crois que c'est les commentaires, c'est le Chumash de monsieur Pamen Chitrit. Enfin, un Chumash bleu, voilà, ça je peux vous dire, bleu avec une couverture rouge, merveilleux.
Avant tout vous dire, j'ai même participé à sa rédaction.
Ah, alors, formidable.
C'est un excellent Chumash.
Merveilleux.
Vraiment.
Avec quelque chose d'unique, je le précise pour vos éditeurs, je connais même pas son nom, mais je l'ai regardé, j'ai étudié, je trouvais des choses formidables, des très beaux commentaires. Et deuxièmement, une traduction avec en gras la traduction réelle du texte de la Torah et en fin des commentaires pour rendre intelligible la traduction. Donc, ça ne triche pas à vous donner un long texte comme on faisait avant les thèmes et les versions romain, latin. Non, non, vraiment la traduction, mais intégrer dedans quelque chose qui rend plus intelligible le texte. Avec qui, de qui on parle, etc. Très bien. Et les commentaires en bas. Plus Rashi, bien sûr. Mais tout cela, vous voyez, il y a de quoi puiser pour pouvoir partager. Je ne dis pas, vous voyez, je n'ai pas dit puiser pour donner. Vous allez dire, mais qui je suis moi pour donner un enseignement? J'en sais pas plus que les autres. Mais va chercher, lis ce que tu as étudié, partage-le, et tu verras comment tes enfants, ton épouse, ton mari... Bref, va, à un moment donné, agrandir ce commentaire, l'éclairer, peut-être l'illustrer par une anecdote, par une comparaison, qui va amener de la compréhension et des textes et du monde. Et je pense que c'est ça. À Hanouka, on peut décider de lancer quelque chose de l'ordre de l'éducation collective dans une famille.
Monsieur le grand rabbin, notre émission vient déjà à son terme. C'est toujours trop court. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Et nous retrouverons, je crois...
Merci à vous d'être venu.
Merci. Merci de m'accueillir. Mais le prochain rendez-vous est déjà
bravo
pris.
Pour ce travail de, sur ce roumage.
Vous êtes déjà
bravo
pris.
Pour ce travail de, sur ce roumage.
Vous êtes déjà
bravo
pris.
Pour ce travail de, sur ce roumage.
Vous êtes déjà bravo pris. Pour...
Bonjour à tous, 16h30, 21h, c'est Radio Shalom. Toute l'équipe vous souhaite la bienvenue.
Bon dimanche, voilà, ça commence bien. On est sur Radio Shalom et ici avec vous, Meital Peretz et Arnon sur la réalisation pour cette émission de dimanche soir pour le meilleur de la musique israélienne. On commence en fait avec Shoshana de Marie, la reine de la musique israélienne des années 60-70. C'est vraiment une reine. Adain Khan. לא כך.
היית אלם שחור עיניים ואני ילדה הקשבתי לדבריך ושמעתי אגדה בחליל בתוף ובמצלתיים העולם נבנה בשירים חולמים שנה אחר שנה אתה איתי הלילה כמו לפני שנים Shlomo ro'e b'shoshani V'shuv anachnu yachad tzohakim lazman Adayim kan, adayim kan Yada'anu sa'ar u'mabul v'chilufei onot ואת אהבתה של הנבא שבבנות החליל צלול והד מסלע שוב עונה אמן ושירינו הישן עוד מתנגן אתה איתי הלילה כמו לפני שנים כשלמה רועה בשושנים ושוב אנחנו יחד צוחקים לזמן עדיין כאן, עדיין כאן ושוב אנחנו יחד צוחקים לזמן עדיין כאן, עדיין כאן אתה איתי הלילה כמו לפני שנים כשלמה רועה בשושנים עדיין כאן, עדיין כאן.
שושנה דמארי, encore là. On continue avec Meir Ariel, le grand Meir Ariel, qui ne peut pas s'empêcher de te regarder.
ויושבך ממלמלת למראה השתנה כל שנייה, כל תנועה. לא יכול להוריד ממך את העיניים, רק יותר ויותר מתמגנת. לא יכול להוריד ממך את העיניים, רק יותר ויותר מתהפנת. וכשכבר נדמה לי שאני עולה על השביל, שאלה גם חסודי אותי יוביל, דווקא אז דעת מכה אותי בסנברים, בקסמי הפשטות של הדברים.
Cette chanson. On va marquer une petite pause ici sur Radio Shalom et on revient tout de suite avec encore de la bonne musique. Ça monte et voilà, ne quittez pas, on revient tout de suite.
Ce soit pour votre mutuelle santé, votre auto, votre assurance commerce, votre assurance professionnelle, votre décennale ou tout simplement pour votre habitation, l'assurance comparateur depuis plus de 19 ans vous propose les meilleurs contrats adaptés à votre situation et en plus aux meilleurs tarifs. Sans perdre de temps sur des sites internet à chercher le moins cher, appelez-nous tout simplement et nous trouverons pour vous la meilleure offre. Vous nous téléphonez au 01 46 50 22 28, 01 46 59 22 28. Toutes nos adresses sur www.l'assurance.fr. L'assurance s'écrit avec un S à la fin. À tout de suite pour de sacrées économies.
Retrouvez toute la programmation du Mémorial de la Shoah sur www.memorialdelashoah.org. Le Mémorial de la Shoah, c'est 17 rue Geoffroy Lagny à Paris dans le 4e. Le Mémorial de la Shoah, un rempart contre l'intolérance et la haine de l'autre.
Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
Le KKL, c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle Israël.
Mais par-dessus tout, le KKL, c'est un amour indéfectible et un engagement pour la terre et le peuple d'Israël.
Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL de France.
Faites votre don sur kkl.fr.
Alors qu'on observe une flambée des actes antisémites qui affectent particulièrement les plus démunis, la Fondation Kazib Kojazor travaille sans relâche auprès des 30 000 personnes aidées quotidiennement. Destinez votre don aux milliers de familles en difficulté sociale, aux personnes en situation d'handicap, ainsi qu'aux survivants de la Shoah. Faites confiance à la plus importante fondation d'aide sociale juive de France. Adressez vos dons avant le 31 décembre et vous bénéficierez d'une déduction fiscale jusqu'à 75%. Fondation Kazib Kojazor, 01 49 23 71 40. 01 49 23 71 40.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Et rebonjour, vous êtes sur Radio Shalom, le meilleur de la musique israélienne, votre émission spéciale pour la fin de semaine. Dimanche soir, on a bien commencé avec Shoshana Damari et Meir Riel. On continue encore un petit peu avec la musique israélienne classique. Meir Banai Uvenehem et entre eux.
צריכים לזוז בזה אני בטוח לרוז לנוע תוך כדי נבין לאן חיכינו די אז רק תגיד יו 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 בואי נברח וניקח רק אותי
ואותך ומכחול. רגע ברגע עולה, אל תשאלי אנה ולמה ואיך, על חוף מבטחים תפתחי את ליבך, תראי איך ברגע הכל יחייך. חלון פתוח, אוויר מלוח, קו המים מתקרב לחוף, זמן נוזל עכשיו, נשפוט לנוע לפחות שבוע, לא נחשוב על שום דבר, הגינו לו והנה בא היום. יום יד ליד נשלב ונהיה לב פועם וציפור. רגע ברגע עולה, אל תשאלי אנה ולמה ואיך, על חוף מבטחים תפתחי את ליבך, איך ברגע הכל תלטף אותה הרוס הכל, צריכים לזוז בזה אני בטוח, לרוז לנוע תוך כדי נבין לאן, והנה בא היום.
חנן בן ארי, לא לבד, ניפסל לא אומר אדם, העריסה תל אביב, יא חביבי תל אביב.
מרגישה שנפתח לה מזל, פגשה אחד גבר גבר ורז'ל, והיא תלחש לו, מה היא תלחש לו, קח אותי על הגמל. I'm your beauty, you're my beast, welcome to the Middle East. תל אביב, יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב, עושים לי היי היי בלילה וואי וואי, וסחתן על תל אביב. תל אביב יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב, עושים לי היי היי בלילה וואי וואי, וסחתן על תל אביב. זורחת שמש בעיר הלבנה, ונועצים בו מבט מכל פינה, והיא יודעת מה היא יודעת, הוא יברח לה עוד שנייה. I'm your beauty, you're my beast, welcome to the Middle East. תל אביב, יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב, תסתכל כמה לירדים מסביב, עושים לי היי
תל אביב, עומר אדם מאריסה, אלה איתי לוי, אייל גולן, חתונת השנה על מריאז' דה לאנה. אלה, כפיים.
מדברת על זה, אירוע מושלם, איזה מחזה. הגיעו מכל העולם, מי שלא פה לא קיים. תוריד את הג'קט, תן לי חיוך, קבל מגנט. מרחבה תרד, אין אחד שלא רוקד. לא יאמן, היא אמרה לו כן, אח שלנו מתהדן. לילה לבן, קלה והתן, ויאללה בלגן. לא יאמן, היא אמרה לו כן, אח שלנו מתחתן. לילה לבן, קלה והתן, ויאללה בלגן. שנגן לנו להיט הגעתי הראשון ואת זה גם אחרון הלכו כל האורחים משם לבד עם הפרחים שתיתי כבר הביט מקסימום ניקח מונית איי איי לא יאמן יאמר לו כן אח שלנו מתחתן לילה לבן קלה וחתן ויאללה בלגן לא יאמן יאמר לו כן אח שלנו מתחתן לילה לבן קלה וחתן לילה והתן ויאללה בלגן לא יאמן יאמרה לו כן אח שלנו מתחתן לילה לבן קלה והתן ויאללה בלגן לא יאמן יאמרה לו כן אח שלנו מתחתן לילה לבן קלה והתן ויאללה
כבר מה לעשות אז עוד השן אל הריאות צורפת לעלות נראה שעלה החליפה אלף חברות כמו גרביים במגרות שוב כל עשרת המכות כל הלילה תראה אני עכשיו נזרקת למקום אחר מתאים לי כבר להישאר לשמוע אותך המצב רציתי בטן גב אבל אותך יותר איך אתה אוהבת לדבר עם העיניים אז תגידי מה נהיה תגידי מה נהיה איך אני באת רוטין בחוץ חיוך מלא שיניים ואיזו אווירה איזו אווירה חשק למתוק אחרי סיבוב מהירוק היא מתחילה לרקוד פתאום כבר טוב לה כי טוב לה טוב לי טוב יותר ויש אוויר טוב בחצר ותכלס מלא מהר כי טוב לה תראה אני עכשיו נזרקת למקום אחר מתאים לי כבר להישאר לשמוע אותך
avec Comment tu aimes. Et on va terminer avec Omer Adam, si vous vous rappelez de cette chanson, tes amis, tes copines. Pour être précise, tes copines.
Dale, chiquita. Plata o plomo, amigos.
Nena, sentimenti, oi, 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 oi. Cama complimenti, oi, 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 oi. כשהיא קוראת לי, אני בא, כבר לא זורק את העניבה. ויפה וגם מופע וקצת שכונה, ויש לה אופי בן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד כי זה לא כיף. אז תגידי לי, איפה כל החברות שלך? אני רוצה לראות ידיים. תגידי מה היא הסוף איתך, כבר לא יורד על הברכיים. אופה, עושה לי אופה. תגידו מה היא איתה, מה היא איתכן בנות. מה זה? תגידו מה זה? עושה לי צ'יקי צ'יקי דם דם ככה כל היום. אם אני לא עונה לה, אוי אוי, אוי אוי, זה בא לה בגלים עולה לה, אוי 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 אוי. מסתכל הכס, מסתכל השון, משיקה וחמודה, קצי לישון. אל תתעצפץ אלי השם, תגיד אמן. היא לא רוצה להתחתן. מתי כשהיום יגיע, תהי בדרך לחופה. אם היא תברח, תלוי במצב רוח וברוח התקופה. היא תעשה את הקופה. איפה כל החברות שלך? אני רוצה לראות ידיים. תגידי מה היא הסוף איתך, כבר לא יורד על הברכיים. הופה, עושה לי הופה. תגידו מה היא איתה, מה היא איתכן בנות. מה זה? תגידו מה זה? עושה לי צ'יקי צ'יקי דם דם ככה כל היום.
Allez, je vous envoie avec ça pour la semaine prochaine. Donc, j'espère que vous passerez une très belle soirée et on se retrouve demain à 17h30 ici sur Radio Shalom pour encore de la bonne musique israélienne. Bonne soirée.
Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM.
94.8 FM.
Attention, événement. L'association Choisir l'école juive présente la 6e édition du Salon des écoles juives. Dimanche 19 janvier, préparez sereinement la prochaine rentrée scolaire. Pendant une journée, les représentants de toutes les écoles juives de France et filières post-bac vous accueilleront sur leur stand à l'hôtel du collectionneur. Venez échanger avec les équipes pédagogiques, bénéficier d'un entretien individuel d'orientation offert et découvrir les programmes d'études en Israël et à l'international. Le Salon des écoles juives, dimanche 19 janvier dès 10h, dans les salons de l'hôtel du collectionneur Paris 8e. Entrée gratuite, animation enfant toute la journée. Restauration cachère et services de sécurité sur place. Alors, venez nombreux.
Best Fenêtre, et une, et deux, et trois agences. Après Paris 20e et les Lilas, Best Fenêtre ouvre sa nouvelle agence à Pavillon-sous-Bois avec notre partenaire Terre de Fenêtre. Pour célébrer cet événement, 25% de réduction sur toutes vos fenêtres en PVC, bois ou aluminium jusqu'au